Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Hiro, qui a découvert que la personne avec qui il a discuté et tant partagé pendant le confinement n'était pas tout à fait qui elle disait être.
Bonjour Lucille, je m'appelle Hiro, j'ai 22 ans. Récemment, au mois de janvier, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme sur une application de rencontre gay. Et notamment, pour la première fois, je n'ai pas vraiment été pressée pour le rencontrer ou pour avoir une relation sexuelle avec lui, ce qui est, on va dire de manière générale, la façon dont je fonctionne depuis au moins quelques années. Évidemment, la relation avec l'état actuel et bien entendu la crise sanitaire est devenue un peu plus fusionnelle, ce qui fait que rapidement nos échanges, qui étaient très amicales au début, très évidemment intellectuels aussi, ont rapidement pris une tournure beaucoup plus romantique, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus platonique, dans laquelle, en fait, je me sentais assez heureux et où, pour la première fois, je ne désirais pas quelqu'un pour du sexe, mais plus pour juste la personne et pour sa présence, du moins le peu que je pouvais avoir. Alors, très récemment, j'ai été victime d'une arnaque, évidemment, de ce jeune homme. Mais au-delà de toute chose, je suis bien évidemment passé par la colère, l'incompréhension, et puis après je me suis rendu compte absolument que beaucoup de choses étaient au rouge dans nos échanges, et bien entendu aussi je me suis rendu compte que la photo et le nom qu'il m'avait donné n'étaient pas les siens. Donc voilà. Au-delà de cela, ma question ici en fait est de savoir comment est-ce que l'on fait pour passer d'un amour, ou plutôt du désir de l'amour charnel à un amour peut-être plus platonique, plus romantique, loin forcément du sexe. Il m'a fallu du temps, et peut-être que cette expérience m'a d'une certaine façon traumatisé ou marqué suffisamment pour que je puisse moi-même remettre en cause mon addiction au sexe, si je peux qualifier ça comme ça, et vouloir peut-être quelque chose de qualité. Merci.
Cher Hiro, je pense que pour changer ses mécanismes de défense et ses habitudes de sexe facile et immédiat, une déprogrammation est nécessaire. C'est-à-dire que c'est un réflexe. Et que pour perdre ce réflexe, il faut d'abord en avoir conscience. Et puis ensuite, rester vigilant pour se comporter à l'inverse de ce que le corps nous demande. Comment fait-on pour ne plus coucher le premier soir? J'imagine qu'il faut consciemment s'empêcher de le faire et voir chaque heure et chaque jour gagner comme une petite victoire. Personnellement, je ne suis même pas sûre que le sexe soit un frein à la création de liens solides, plus intellectuel. J'ai juste tendance à penser que la relation est souvent définie par la façon dont elle a commencé. Si vous cherchez des histoires d'un soir, sur une application ou dans un bar, il n'y a aucune raison pour que les personnes en face comprennent que vous souhaitez en réalité autre chose. Pour engager des relations profondes, ou en tout cas tenter de le faire, vous devez être honnête sur vos intentions dès le départ, et probablement adapter votre mode de recherche. Parce que si deux personnes qui souhaitent s'engager couchent le premier soir et que le courant passe bien, rien n'empêche que leur relation par la suite soit aussi tendre qu'intellectuelle. La relation sexuelle n'est pas le problème. C'est la compatibilité et le désir de relation qui l'est. En fait, pour imaginer mon propos, si vous allez constamment au restaurant italien, il est tout simplement peu probable que vous trouviez des sushis à la carte, ce dont vous avez vraiment envie. C'est un changement de paradigme dont vous avez besoin. Mais comme rien n'empêche une rencontre d'un soir à mentir sur son prénom, son âge ou sa profession, il est difficile de vérifier qu'une personne avec qui on discute virtuellement soit tout à fait la personne qu'elle dit être. Ce simple fait ne doit pas vous empêcher d'être honnête. Être tout à fait vous-même, au clair avec votre histoire et vos désirs, est une étape primordiale pour partager une belle relation d'amour ou d'amitié avec quelqu'un. Et un arnaqueur ne doit pas vous faire oublier que vous n'êtes pas seul à vouloir offrir autre chose que du sexe sans lendemain. Je précise que je n'ai rien contre les plans cul, qui peuvent aussi être ou devenir de très belles histoires à leur manière. Il n'y a aucune classification, aucun jugement qui doit être fait sur les relations. Les amours platoniques ne sont pas plus nobles que les rencontres basées uniquement sur un rapport sexuel. Seulement, cher Hiro, Vous désirez maintenant autre chose que les interactions et les histoires que vous avez vécues jusqu'à présent. Et mon conseil est le suivant. Sachez toujours qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment. Exprimez-le ouvertement, sans honte et sans réserve. C'est la meilleure façon de rencontrer une personne qui aura les mêmes désirs que vous et à qui vous plairez. Pour parler d'usurpation d'identité sur Internet, appelé aussi catfishing, j'ai rencontré François Manins, journaliste chez Cyberguerre, le média de Numérama sur la cybersécurité. Je lui ai d'abord demandé de me définir ce qu'était le catfishing.
Le catfishing, ça reprend tout un ensemble de concepts qui existent en cybersécurité. C'est du phishing, mais adapté à l'usurpation d'identité pour notamment des applications de rencontres. Donc le terme catfishing, à proprement parler, lui, il vient d'un film qui a été décliné après en série, qui passait sur MTV à l'époque. Le film date de 2010 et la série MTV date de, c'est étendue entre 2012 et 2018. C'est les frères Schulman. Et notamment, il y en a un des deux, Niamh, qui joue du coup le rôle dans le film et qui après aidait des victimes de catfishing à s'en sortir. Ils ont un peu en fait amené le concept et mis ce nom de catfishing. Mais en fait, le catfishing, c'est une version, on va dire, avancée d'un d'escroquerie qu'on voit assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on parle de catfishing quand il y a eu vraiment un rapport que c'est bien fait. Mais si on pense, peut-être que vous avez déjà été contacté par ce qu'on appelle les brouteurs, qui disent qu'ils ont un oncle à qui il faut envoyer un million d'euros, et c'est exactement le même principe. On n'appelle pas ça du catfishing, on appelle ça de l'escroquerie, de l'arnaque, mais ça revient au même. Et c'est de l'usurpation d'identité. La finalité du catfishing, elle est un peu variée. Ça peut aller de l'extorsion financière, donc là on retrouve un peu comme pour les brouteurs. Ça peut être du vol d'informations. Ça peut être aussi, on peut faire de la sextorsion, donc demander de l'envoi de nudes, par exemple, et après faire du chantage là-dessus. Ça peut être simplement du chantage, parce que, imaginons, j'ai une relation sur une application de rencontre avec une relation extra-conjugale, je suis dans une relation exclusive. On peut s'en servir pour faire chanter en disant je vais liquer ça à ton partenaire si tu m'en parles pas. Donc voilà, donc c'est un phénomène assez grand, défini, c'est un peu rigolo que ce soit défini plutôt par une série MTV et popularisée, mais qui reprend beaucoup de ficelles qu'on voit dans le cyberespace en général.
Comment peut-on savoir qu'on a affaire à un catfish?
On arrive un peu dans ce qui arrive souvent en ligne, que ça soit quand on reçoit un email ou un appel, c'est est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Si quelque chose se déroule parfaitement bien, et parfois il faut peut-être se poser la question. Alors c'est un raisonnement qui est un peu triste, parce que ça veut dire qu'il faut un peu se méfier de tout, faut réussir à bien doser ça pour pas complètement se méfier de tout, mais voilà. Donc je vois que cette relation avec un homme, une femme, se passe extrêmement bien, mais on peut voir certaines choses. Par exemple, j'ai aucune photo d'elle originale, ou alors les photos d'elle sont toutes magnifiques, belles, il n'y a pas une seule photo bizarre, il me parle de sortie, mais j'ai aucune photo de cette sortie, il ne m'envoie pas de photo de paysage, voilà. C'est un peu bizarre. Et donc du coup, là on peut vérifier. Alors c'est le même principe que quand on reçoit un email de phishing, on va vérifier qui est l'expéditeur. Et là c'est un peu la même chose. Donc le moyen le plus simple, c'est de prendre les photos, on les enregistre sur son ordinateur et on les recherche sur Google Images ou sur Bing, qui peut être un peu mieux, donc c'est le moteur de recherche de Microsoft, ou même Yandex qui est l'équivalent en russe. Et en fait, ces moteurs de recherche vont permettre d'afficher toutes les photos similaires à la photo que vous avez mise. Donc si par exemple, comme c'est la plupart du temps le cas pour les catfishers, si la photo vient par exemple d'un compte Instagram d'un modèle russe, et normalement, en faisant cette recherche inversée, je vais le trouver. Donc en fait, c'est relativement simple de démasquer un catfishing. Et c'est aussi pour ça que les victimes vont se sentir un peu stupides. Comme à chaque fois qu'on se fait arnaquer en ligne, on se sent un peu stupide parce que voilà, c'était évident depuis le début, j'aurais pu me douter. Et un autre moyen aussi, tout simplement, c'est d'aller googler la personne. On n'y pense pas assez, mais si la personne a un compte Instagram, elle a probablement un compte Facebook, elle a probablement... Et à partir du moment où, si on trouve aucune trace de la personne en ligne, on trouve aucune photo d'elle, là, on peut commencer à se poser des questions et là, peut-être que ça vaut le coup carrément de mettre les pieds dans le plat et demander à la personne, je m'inquiète un peu, on discute beaucoup, on aborde des choses privées ensemble, est-ce que tu pourrais, la prochaine fois que tu sors, imaginons, elle sort et vous dit, je vais faire du shopping, envoie-moi une photo de toi au shopping, ou je sais pas. C'est un équilibre délicat parce que en plus, quand on parle de relations intimes, ça ajoute une tension bizarre, mais c'est... Faut pas pousser ça jusqu'au stalking sur Google, mais une petite recherche rapide et hop, les doutes sont levés et on sait ce qui se passe.
Comment se protéger de voir ces données utilisées par un catfish ?
quand on regarde un catfish, avant de donner ses informations personnelles, et c'est partout en ligne, c'est-à-dire que vous donniez vos informations à une entreprise ou à une personne, il faut avant se poser quelques questions. Alors ça, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire tout le temps penser à ça, mais peut-être qu'avant de raconter le nombre d'anciens partenaires que vous avez, le nom de votre animal de compagnie, le nom de vos parents, la profession de vos parents, par exemple, parce que ça, c'est par exemple, c'est des questions de sécurité sur, pour les mots de passe, bah, il faut être sûr qu'il y ait une vraie relation de confiance. Donc ça, c'est comment se protéger contre le catfish, c'est faire attention aux informations qu'on donne. On ne donne pas d'informations en ligne à une source qu'on n'a pas de confiance. Alors, c'est pas une science exacte, parce qu'on pourra toujours se faire avoir, et il y aura toujours du catfishing, mais ça peut être utile. Et ensuite, il y a le sens inverse pour se protéger du catfishing, c'est de ne pas être la personne qui sert de profil au catfisher, on va dire. Pour pas se faire usurper son identité, bah pareil, c'est un peu compliqué, mais ça revient au même concept qu'il faut être toujours conscient des informations qu'on met en ligne. Donc, éviter d'avoir toute sa vie littéralement exposée en ligne pour pas qu'elle soit, qu'on puisse la reproduire aussi facilement. Et là, on en vient un peu à la question du modèle de sécurité, c'est-à-dire peut-être que Martine Lambda n'a pas besoin d'autant protéger ses données qu'une super modèle russe ou un homme d'affaires richissime, parce que Martine Lambda, il y a moins de chances qu'un malfaiteur veuille usurper de son identité, alors que oui, forcément, si on est potentiellement une identité intéressante, on peut, voilà. Donc c'est vraiment une question de modèle de sécurité, et il faut aussi essayer au maximum de savoir où se trouvent ces informations personnelles en ligne. Alors c'est toujours compliqué, parce que des fuites de données, il y en a tous les jours, il y en a qui sont publics, il y en a qui sont pas et qui sont privés, on sait jamais trop où circulent ces données, mais voilà, c'est essayer de s'en protéger au maximum, c'est contrôler un minimum ces données personnelles. Ça peut être tout un nettoyage, ça dépend de quel niveau. Quand on parle des comptes de rencontres, par exemple, de base, la protection de ces données et la volonté de rencontrer des personnes, ça va pas ensemble. Nous, à Cyberca, on a travaillé sur Appen qui proposait de la géolocalisation, et on voit, ils ont tout un problème entre je veux dire aux autres personnes où je suis, mais à la fois, ils ont pas le droit de dire exactement où ils sont. Donc, on se retrouve avec des mécaniques bizarres où on rencontre des gens dans la même zone, mais pas vraiment. Voilà. Donc, les deux vont pas vraiment ensemble. Donc, mettre tous ces comptes en privé, bah, pas forcément vu qu'on veut rencontrer des personnes. Par contre, peut-être mettre un minimum d'informations pour être intéressant, mais il y a un équilibre à trouver entre dire mes passions préférées, c'est l'aviation, ça fait 4 ans que je fais du poney à tel club, et juste mettre son âge, son identité et peut-être la ville où on habite éventuellement. Et ça revient au même problème de quelles informations on peut trouver sur nous en ligne. Si je cherche votre nom sur les pages jaunes, il y a une grande chance que je puisse trouver votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom et prénom, voilà. Donc, oui, il n'y a pas besoin de non plus de rentrer dans une psychose énorme, mais il faut faire attention.
Enfin, je lui ai demandé quelles ressources il pouvait conseiller à quelqu'un qui cherchait à en savoir plus sur le sujet.
Nous, sur Numérama, on fait des guides assez pratiques, par exemple, comment protéger son compte Facebook en 10 minutes. La plupart du temps, la sécurité en ligne, ça prend pas longtemps, il suffit de changer 2-3 paramètres et déjà on augmente largement la sécurité de ses comptes. Et après, il y a une série dont on a fait la critique sur Numérama d'ailleurs, sur France TV Slash, donc c'est en streaming gratuit, vous pouvez y aller quand vous voulez, qui s'appelle Stoke. L'avantage de Stoke, c'est qu'ils sortent du concept du hacker à capuche dans l'ombre, dans sa chambre, qui tape des commandes très complexes. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est beaucoup d'ingénierie sociale, donc convaincre des gens, envoyer des emails bien écrits, profiter d'erreurs humaines. Et ça, pour ça, la série est très bien, parce que ça met vraiment en avant ce côté, le vrai côté de la cybersécurité et le vrai côté de comment on exploite ça, qu'est-ce que font les malfaiteurs.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film 57 000 km entre nous de Delphine Crutter, qui pose aussi bien avec malice, ironie et poésie la question de l'image de soi sur Internet, ce qu'on décide d'y renvoyer et ce qu'on décide d'y vivre. Il y est question d'ego, de failles narcissiques, de sexe, mais aussi d'amour, de tendresse et de complicité. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge, et éventuellement votre ville. Enfin, L'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.